Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour un nouveau podcast de la rédaction. Vous le savez, nous avons entamé une sorte de marathon des bilans de l'année 2020. La semaine dernière, nous avons parlé de Nintendo, ou plus exactement, Thomas, Romain et Traz vous ont parlé de l'année de Nintendo, qui était estimée comme le hold-up de l'année. Une appellation trouvée par Romain, qui est très rigolote et qui nous plaît beaucoup. On va essayer de chercher celle qu'on va donner à Microsoft pour 2020, à la branche Xbox de Microsoft. Avec moi aujourd'hui, nous avons à nouveau Romain, toujours en direct du Japon.
Non, je n'en bouge plus.
Voilà, il y reste dans son Japon idéal. Et de Thomas qui, lui, il est à la rédac. Voilà.
Bah, j'en bouge pas non plus. Moi, j'ai établi mon campement ici, sous le bureau de Romain d'ailleurs, qui est juste à côté. Et je m'y plais beaucoup.
Bah ouais, on voit d'ailleurs avec ta barbe que effectivement, c'est un peu ton Koh-Lanta à toi.
Tu rigoles. Contrairement à toi, mon cher Plume, je me suis entretenu ces derniers temps.
Ah bon?
Qu'est-ce que tu vas faire?
Ouais, bah t'as de la chance. Moi, j'avais pris rendez-vous le 31 octobre. Donc voilà, je peux pas en dire plus. Écoutez, messieurs, on va immédiatement rentrer dans le vif du sujet par rapport à Microsoft. On va faire une sorte de découpage, on va dire, par rapport à tout ce qui a été proposé par Microsoft en termes de com, en termes de service, qui est quand même quelque chose de... Qu'est-ce qui te fait sourire, Romain? Parce que j'ai dit com.
Toi, t'as dit Microsoft.
J'ai dit... Ah.
J'imaginais la nana avec son écharpe. Microsoft.
J'ai dit Microsoft, d'accord. Bah écoute... Ok, il y avait eu Microsoft pendant un E3, bah là on a Microsoft. Donc la com, les services évidemment, puisque ça prend de plus en plus d'importance et aussi de la technologie. Et puis on finira évidemment avec le lancement des consoles de nouvelle génération Xbox Series X et Series S. Messieurs la com, c'était une année, encore une fois pour Microsoft, on le dit tous les ans, qu'aurait pu être très bien. Mais qui au final n'est pas aussi enthousiasmante qu'elle aurait dû l'être, n'est-ce pas? Thomas, tu es en train d'acquiescer.
Oui, sur à peu près tous les plans, parce que je pense que Romain détaillera ça mieux que moi, mais ça a été une année très verbeuse, on va dire, avec énormément d'éléments de communication, énormément de prises de parole de la part des responsables de Microsoft et surtout de la branche gaming. On les a beaucoup entendus, pour dire parfois des vérités, puisque... On a dit qu'on allait partir un peu dans un ordre chronologique. Dès le mois de janvier, Matt Booty nous prévenait qu'il ne fallait pas s'attendre à des grosses exclusivités, même à des exclusivités tout court, au lancement de la Series X. Donc, commencer à préparer un petit peu les esprits. Mais surtout, tu le disais, ça aurait pu, une fois de plus, être une bonne année. Je crois que ça fait un petit moment que dans ces podcasts, on parle du retour en force potentiel de Microsoft et de tout ce qu'ils ont fait. On va revenir dessus en détail, évidemment, mais pour essayer de donner le change et de donner des gages aux joueurs justement de leur bonne volonté. Et on a l'impression que c'est un peu l'année d'espérance de trop, en fait. C'est cette année qu'on espérait voir véritablement des choses. Alors, sans parler de jeux qui sortaient véritablement, puisqu'on sait que les grosses cartouches sont majoritairement portées à l'année prochaine. Mais j'ai l'impression que ça a été l'année de trop en termes de promesses. Alors, en termes de promesses non tenues, en fait. Et moi, en tout cas, personnellement, je ne sais pas quel est votre ressenti, mais je commence... un petit peu en avoir ras la casquette des déclarations des responsables de chez Microsoft qui ne sont jamais suivies des faits. On a l'impression que ça a été une année avec quasiment que de la com et finalement très peu d'actions concrètes. En fait, je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, mais j'ai eu l'impression qu'on a surtout relayé un discours et pas vu grand-chose de tangible en fait, sur le plan des jeux.
Bah, le truc, c'est que ça a commencé avec les Game Awards de l'année dernière, je trouve, où ils nous montrent enfin la Xbox Series X présentée comme la console la plus puissante du monde avec une vidéo de Hellblade 2, il me semble, si mes souvenirs sont exacts. Et tu sens un Microsoft qui redevient conquérant à ce moment-là, parce que jusqu'à présent, enfin ces dernières années, on avait eu un Microsoft, surtout tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, avec le crossplay, des différents représentants de Microsoft qui n'hésitent pas à dire ouais j'adore tel jeu de telle console concurrente, etc. On est tous les meilleurs copains du monde. Ça c'est resté un peu encore cette année, mais malgré tout au début tu as l'impression que tu les sens conquérants et forcément quand ils vendent leur console comme étant la plus puissante du monde, tu t'attends à ce qu'il y ait des jeux qui le prouvent à côté de ça. Et donc, évidemment, la hype monte, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de se faire des idées. C'est toujours comme ça, à partir du moment où on les hype, l'imaginaire fait le reste, souvent à tort. Et donc là, les gens se sont mis à s'imaginer des trucs, surtout qu'on nous avait promis Halo Infinite pour le lancement de la, pour le lancement de la console, avec un retour en force là aussi de Halo, après un Halo 5 qui n'avait pas fait vraiment l'unanimité. Et les choses se sont, enfin, ont dégringolé un peu progressivement, même s'il y a eu du positif, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Je pense au premier Inside Xbox où on nous promet du gameplay de jeux Xbox Series X. Et là on tombe sur du double A, voire moins, dans certains cas, et des choses... je me rappelle surtout de la vidéo, c'était Vampire, je crois, ou Mascarade, ou je ne sais plus trop quoi. Et là, je me disais, on nous montre ça pour nous, dans la première vidéo, de la première émission de présentation des jeux Xbox Series X, et on nous montre ce truc-là. Et j'étais là, non, mais c'est pas du tout ça qu'il faut montrer en premier pour rassurer les gens, tu vois. J'étais un peu, j'étais un petit peu étonné. Et après, toi, tu parles, Thomas, des déclarations des communicants de Microsoft. Et d'un côté, je me dis qu'ils ont une manière de communiquer qui est assez sympathique. Tu vois, par exemple, un Phil Spencer, il fait pas hérisser les poils comme Don Matrick pouvait le faire en son temps. Mais à côté, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'on nous promet des choses. On nous dit, mais on est d'accord avec vous, hein, on a conscience de ce que vous voulez, on sait, etc. Et après, les présentations officielles ne correspondent pas du tout à ce que les gens attendaient, ce que les gens avaient envie de voir.
Et donc, ça fait des années que ça dure, surtout.
Ça fait un moment que ça dure. Et c'est vrai que Microsoft a acheté énormément de studios. On sait que ces studios ont des choses en développement, mais comme on ne les voit pas et qu'on ne sait pas à quel horizon ça va arriver... là, en fait, on demande aux gens d'acheter des consoles sur des promesses, en fait, et de vagues promesses. Même si, à côté de ça, et là encore, on va y revenir, on s'est bien rendu compte que cette année, l'objectif et l'enjeu principal de Microsoft, c'est le Game Pass.
On y viendra, évidemment.
Voilà ce que je peux dire dans un premier temps.
On y viendra, évidemment, tout à l'heure, hein, au Game Pass et à tous les services. On peut quand même, donc, dire qu'il y a eu une belle montée en sauce jusqu'au mois de juillet, août, avec les premières présentations donc des premiers jeux, on va dire, maison de Microsoft, des Xbox Game Studio maintenant, comme on les appelle. Qu'est-ce qu'on en a retenu à ce moment-là de cette présentation ? Romain, tu as le sourire, donc je vais peut-être te laisser en parler en premier, puisque, évidemment, on va parler de Halo Infinite.
Voilà, c'est ça, moi, enfin... Qu'est-ce que tu retiens de l'événement et du Xbox Game Showcase de juillet ? Ça tient en deux mots pour la France et en un mot pour les Américains. Jean-Louis chez nous, Craig pour les Américains. Et c'est la seule chose qui est ressortie et qui est restée finalement de cet événement-là. C'est cette présentation complètement ratée de Halo Infinite, qui était le jeu blockbuster de Microsoft pour la fin d'année. Et cette présentation, autant le gameplay, finalement, il peut être très bien, mais c'est généralement le cas dans les jeux Halo, c'est que là, ce jeu nous est monté en épingle depuis des années maintenant, et c'est la console la plus puissante du monde et tout, tu t'attends à te prendre une méchante claque visuelle, et c'est tout l'inverse quand le jeu est présenté, et il devient la risée des internets, et c'est pas du tout les faire chercher, je pense, par Microsoft. Et c'est là où ça me fait me poser une question: est-ce qu'ils ont le nez tellement dans le guidon et tellement de choses à gérer en même temps qu'ils ne se rendent pas compte de l'état dans lequel est le jeu? Ce que j'ai du mal à croire quand même, parce que les développeurs sont pas idiots, hein, ils se rendent compte. Alors, est-ce que ça valait vraiment le coup de montrer ça plutôt que de ne pas le montrer du tout et de dire on a juste besoin de temps de développement en plus, et pour éviter ce bad buzz, et parce qu'il y aurait eu un bad buzz s'ils avaient annoncé le retard du jeu, c'est sûr, mais il n'y aurait pas eu tous ces mèmes, il n'y aurait pas eu toutes ces blagues, et même s'ils améliorent de manière conséquente le jeu d'un point de vue visuel pour sa sortie, ces images-là, elles restent. Cette mauvaise impression et cette... Craig, on le verra, enfin Jean-Louis Craig, on le verra toujours. Et même aussi beau il sera rendu par la suite, il sera toujours là, d'une manière ou d'une autre.
Oui, mais ça va bien parce qu'ils l'ont un petit peu repris à leur compte, Craig. aussi en même temps, ils s'en amusent. Après, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut trouver très malin de leur part de prendre quelque chose qui est quand même largement moquable, mais ils se sont appropriés et on peut dire que ils participent un petit peu aussi à la fête quand c'est comme ça.
Pour l'instant, ils se le sont approprié verbalement uniquement. Genre, ils nous en parlent. Ouais, Craig par-ci, Craig par-là, machin. Mais pour que la chose soit vraiment retournée en leur faveur, il faudrait, par exemple, je sais pas, hein, parce que je suis pas un créatif, mais un trailer où tu as l'ancienne version de Craig qui apparaît, un petit trailer humoristique où il y a l'ancienne version et le nouveau Craig qui apparaît à côté, qui est juste 15 fois plus beau, ou je sais pas, un truc où tu sais, où il le dégage de l'image, ou en faire une punchline. Pour l'instant, ils nous disent juste, oui, chez 343, on a fait des t-shirts avec Craig, oui, Craig par-ci, Craig par-là, mais ils ont pas retourné le truc. Pour l'instant, ils alimentent même plus les blagues contre eux que retourner le machin en leur faveur. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Sûr.
Est-ce que ça montre pas à quel point ils sont un petit peu acculés, justement, parce que t'évoquais l'éventualité qu'ils ne diffusent pas finalement de gameplay d'Halo Infinite au moment de cette présentation au mois de juillet, ce qui fait qu'on aurait finalement eu pas grand chose, parce que c'était quand même une pierre angulaire dans cet événement qui était diffusé en direct. Et le pire, c'est que je pense qu'ils voulaient d'abord montrer des nouvelles mécaniques, parce qu'en fait, en termes de nouveautés intrinsèques au gameplay de la série Halo, on y a vu des choses. Le problème, c'est que tout ça, comme tu l'as dit, c'est envolé, évaporé, a disparu en fait de la mémoire collective presque aussitôt parce qu'il y a eu justement ce bad buzz. Et ça souligne aussi quelque part qu'on a encore, malgré la palanquée de Xbox Game Studios qui maintenant existe et qu'on sait tous au travail sur tout un tas de jeux annoncés ou pas, on a toujours énormément de mal à voir précisément en fait où on va chez Microsoft, ne serait-ce que pour l'année 2021. On a encore assez peu de titres dont la sortie est calée, qui ont été véritablement annoncés avec un calendrier précis. Alors qu'en face, on n'est évidemment pas là pour parler de Sony, mais il y a une poignée de jours, Sony a refait une petite bande-annonce, justement en casant des exclusivités pleines ou temporaires pour l'année 2021. On y voit tout de suite beaucoup plus clair. Aujourd'hui, tu l'as rappelé tout à l'heure, le joueur qui achète une Series X, c'est d'abord pour profiter en fait d'un confort de jeu et de titres déjà existants. Mais à quoi est-ce qu'on va jouer en 2021 pour l'instant? Il y a encore beaucoup de brouillard, je trouve, autour de ça, alors que ça y est, la console est sortie. Et c'est quand même assez inquiétant de la part de Microsoft, qui quand même part un petit peu dans une position d'outsider au départ. Le marché ne l'aurait clairement pas acquis, en tout cas pas pour l'instant.
Bah, et surtout que si on met Halo Infinite de côté, dans la présentation de juillet, il y a eu un nouveau Forza Motorsport qui a été teasé, il y a eu le retour de Fable. Donc il y avait des choses finalement, c'est juste
et teaser uniquement.
Ouais, teaser et pas de date précise de sortie. Et en plus, on sait que pour des jeux prévus plus loin, les dates de sortie valent pas grand chose finalement. Quand on voit certains jeux qui se voient reporter 3 ou 4 fois entre leur annonce initiale et leur sortie effective, donc c'est difficile de savoir. Mais là, en l'occurrence, ils ont réussi à en vendre des consoles pour l'instant, elle est en rupture de stock un peu partout, même si c'est vrai qu'on ne sait pas quelles sont les quantités sur le marché. Mais c'est bizarre. C'est là où tu vois le Game Pass a pris le dessus sur tout le reste, finalement. Parce que c'est la communication réussie de Microsoft, en fait, elle réside quasiment exclusivement sur le Game Pass désormais. Et après, à côté de ça, parce qu'on en a parlé longuement pour Nintendo, il faut aussi garder à l'esprit l'impact du Covid et sur l'organisation, sur le marketing, toutes ces choses-là. Parce que Microsoft a dû gérer le lancement de 2 nouvelles consoles. Dans une année où les gens sont en télétravail, où il n'y a pas de salon, où il n'y a pas de... Parce que tu vois, Nintendo, ce n'est pas un problème qu'il a eu à gérer, par exemple. Lui, il a sorti ses jeux sur une machine que les gens connaissent déjà. Et donc, pas de choses à gérer là-dessus. Microsoft, donc, ils ont non seulement une nouvelle console, mais en plus, ils ont une deuxième console qui n'a pas forcément les mêmes capacités, les mêmes spécificités. Donc, il faut présenter ces machines-là et gérer tout ça, plus gérer le développement des jeux en parallèle. Alors, Microsoft, pour ce qui est d'Halo Infinite, a mis a utilisé le Covid comme une des raisons des difficultés rencontrées ces derniers mois. Mais moi, de ce que j'ai entendu en interne, c'est le boxon sur Halo Infinite depuis bien plus longtemps que ça. C'est des visions divergentes, plusieurs éléments différents qu'il faut raccorder les uns aux autres, raccrocher les uns aux autres. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est sûr que même si la situation de base n'était pas simple, la Covid, c'est vrai, moi je continue de dire le Covid, mais apparemment c'est là qu'il faut dire, la Covid n'a pas aidé.
Certes, mais est-ce qu'on n'a quand même pas des raisons d'être content au niveau de la com de Microsoft par rapport à des sorties de jeux de cette année? On voit par exemple que pendant la présentation, donc le showcase de juillet, il y a eu un petit jeu, on va dire un petit jeu parce que on ne sait pas encore à quoi il va ressembler, un jeu Obsidian, qui est donc un grand studio de RPG que vous connaissez tous, qu'on connaît tous ici, et qui va essayer visiblement de nous ressortir un Skyrim-like à un moment ou à un autre, un jeu qui s'appelle Avowed, et qui peut être on va dire un générateur de hype. Il y a un autre jeu qui est sorti déjà, mais qui est en Early Access, qui s'appelle Grounded, toujours d'Obsidian, qui marche plutôt bien, une espèce de chérie, j'ai rétréci les gosses, version survie. Et puis, on oublie peut-être aussi de parler de la grosse réussite, qui n'est pas sur console pour le moment, parce que ça va être un peu compliqué, c'est Flight Simulator. Parce que mine de rien, pour Microsoft, il y a une partie dont on oublie de parler, c'est la partie PC, qui est quand même devenue extrêmement importante depuis des années, qui est même mise en avant parfois plus que les consoles, l'espèce de synergie qu'il y a entre les deux écosystèmes console et PC qui est largement mise en avant. Et Flight Simulator, on peut quand même dire que c'est leur grosse réussite de l'année.
Ah bah c'est clairement leur jeu qui a le plus fait parler pendant cette année et fait parler en bien. Les gens, enfin je sais que même à la rédac où on n'est pas forcément des amateurs de jeux de simulation aérienne, bah on a beaucoup parlé de Flight Simulator. Poufy, il jouait quand même assez fréquemment.
Bah, il a passé son brevet de pilote depuis, hein. Ouais. Donc voilà.
Moi, j'ai pas de PC, donc je suis pas du tout. J'ai pas de PC, et deux, j'aime pas dans les jeux d'une manière générale, j'aime pas les séquences en avion. Donc, d'une manière générale, je suis pas du tout concerné par Flight Simulator, mais c'est vrai que oui, il a beaucoup fait parler et fait parler en bien, et il continue d'être mis à jour avec des améliorations des différentes régions, etc. Le travail effectué de modélisation de la planète d'une manière générale est assez dingue en termes de fidélité, de sensations, enfin des échos que j'ai pu avoir. Ça a l'air d'être très bien, parce que c'est vrai, là encore tu as raison de le dire, Microsoft est loin de jouer uniquement dans sa partie gaming, hein, je parle, est loin de jouer sur un seul tableau, là où Sony, vous voyez, les PlayStation, c'est séparé de Sony Pictures, c'est séparé, tu vois, ils sont des catégories, des filiales différentes. Microsoft, effectivement, il y a plein de filiales différentes, mais au sein même du jeu, là aussi, il y a plusieurs choses à gérer en même temps. Donc oui, ils se sont bien débrouillés là-dessus. Et sur PC aussi, en début d'année, il y a eu Gears Tactics, qui est un jeu de stratégie qui a été très très bien reçu par la critique. Moi, j'ai pu y jouer un petit peu sur Xbox Series X, et c'est vraiment très bien. Et pourtant, je déteste pas le tactical, donc ça serait mentir de dire que j'y joue jamais, mais ils ont réussi à transposer de manière très habile Gears of War dans un tactical, et c'est vraiment une belle réussite aussi.
Et je précise aussi que juste sur le plan technique, on a oublié de le dire, mais Flight Sim, c'est un des jeux qui, assez intelligemment, utilise l'espèce de connectivité permanente que Microsoft voulait mettre en avant à une époque, parce que pour avoir un rendu satisfaisant et quelque chose qui se met à jour en temps réel, il faut systématiquement être connecté. On sait qu'on y joue principalement sur des serveurs à distance, et ça fait partie des jeux qui, sans forcer, illustrent ce que, justement, la connectivité permanente peut aussi apporter dans certains cas. Très précis en l'occurrence, parce que aussi renversant a-t-il été, ça reste malheureusement, j'ai envie de dire, quand même un jeu de niche, puisque on est quand même assez nombreux à pas y avoir joué, et des fois faute de matos, mais c'est clair que ça fait partie des grandes réussites de l'année.
Bon, et on peut quand même signaler, outre les plans com avec, Snoop Dogg et son frigo, entre autres, qui ont au moins le mérite de faire sourire un petit peu, il y a des rachats qui sont très intéressants aussi, encore une fois, cette année. On a l'impression que c'est encore une année de préparation pour quelque chose qui pourrait être énorme un peu plus tard.
Ça fait combien d'années qu'on dit ça ?
Ben, ça fait vraiment longtemps qu'on dit ça. C'est après, ça. Là, on parle de Bethesda, donc qui n'est pas le pire des studios, même si ils ont un peu perdu de leur superbe ces dernières années, à cause notamment de Fallout 76, qui a vraiment plombé leur réputation. Mais bon, quand tu as un jeu comme Doom Eternal, par exemple, qui sort cette année, je pense que ça va, tu peux encore voir... voir les bonnes choses de ton côté. Mais Bethesda, par exemple, est un excellent rachat. Les rapprochements avec les studios japonais qui sont de plus en plus évidents aussi. Il y a beaucoup de jeux japonais qu'on n'imaginait même pas voir un jour sur une console Xbox. Et c'est pas toi, Romain, qui va me dire le contraire, avec le décor que tu as derrière toi.
Oui, bah, c'est juste pour revenir sur Bethesda, rachat à 7,5 milliards de dollars quand même. Enfin, c'est surtout, ils ont racheté Zenimax Media. Ouais. Zenimax Media, dont fait partie Bethesda et ses différents ID Software, le studio de Mikami dont le nom m'échappe là, Tango Gameworks.
Oh, ouais.
Ouais. Donc, ils ont racheté encore un ensemble de studios qui est assez conséquent. Mais juste avant de parler du jeu japonais, puisqu'on parlait des rachats, il y a un truc qui m'étonne avec Microsoft, c'est sa manière de gérer les exclusivités et le dialogue autour des exclusivités. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, on se souvient à la Gamescom, je crois, 2014, quand ils ont annoncé Tomb Raider exclusif sur Xbox. Évidemment, ça a provoqué la colère des joueurs PlayStation, c'était logique. Et 24 heures après, ils étaient là, Microsoft, hein. Oui, non, mais rassurez-vous, c'est une exclusivité temporaire, etc. Mais dans quel monde, en termes de business, tu réagis comme ça ? Tous les autres, quand ils ont des exclusivités temporaires, ils disent rien. Ils disent, voilà, il est exclusif, point. Et un an après, bah voilà, il est annoncé sur d'autres plateformes. Là, Microsoft annonce un truc exclusif. Et genre 24 heures après, il dit « Oui, non, mais rassurez-vous, on ne l'aura pas très longtemps. Hein » c'est bizarre.
Alors là, que Sony fait tout l'inverse en ce moment, voilà. Justement.
Et je trouve qu'ils ont refait ça avec Bethesda. Parce que oui, ils rachètent un éditeur massif qui a beaucoup de studios qui développent un peu partout, dont des jeux déjà annoncés comme exclusifs sur PS5. Et après, pendant des semaines, ils passent leur temps d'interview à devoir essayer de rassurer les gens pour dire non, non, mais oui, on fera du cas par cas. Parfois, ça sortira par-ci, parfois, ça sortira par-là, etc. Alors après, il faut bien garder à l'esprit que si Microsoft rachète Bethesda et que les jeux Bethesda sortent sur PS5, ça fait que de l'argent en plus pour Microsoft. Hein. Ils n'ont pas forcément d'intérêt financier à garder les choses pour eux. Mais à côté de ça, ils ont des consoles à vendre. Et donc, s'ils disent « Oui, non, non, mais rassurez-vous, ça va continuer de sortir par-ci, par-là », ça va pas inciter les gens à acheter des Xbox. Au bout d'un moment, en fait, il va falloir qu'ils se mettent d'accord en interne avec eux-mêmes sur ce qu'ils veulent faire de leur console. Soit ils veulent se focaliser uniquement sur les services et sur l'édition de jeux. Et dans ce cas-là, bah, comme avec Minecraft par exemple, dans ce cas-là, ils feront énormément d'oseille en le proposant partout. Et ils feront énormément d'oseille en proposant le Game Pass sur le plus de plateformes possibles. Ou alors, ils veulent vendre des consoles. Et dans ce cas-là, il va falloir garder des trucs qui sortent que sur ces consoles. Parce que les deux ne sont pas compatibles en fait. Ou alors, il faut se contenter de ventes relativement mineures pour ces consoles. Parce que les deux, pour moi, sont en opposition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Pour moi, c'est des options. Voilà. C'est toujours plus d'options, plus de possibilités. Mais après, c'est vrai que ne pas se concentrer sur une chose, ça me paraît un peu étrange dans un business. Voilà.
Parce que oui, c'est une option, la Xbox, mais la console Xbox. Mais fabriquer, enfin, la recherche et le développement, et ensuite la production, ça coûte de l'argent. Donc, si tu n'as pas vraiment envie d'inciter les gens à acheter tes consoles, bah, pourquoi insister dans ce cas-là?
Après, ils ont quand même lancé la console du Game Pass aussi cette année, mine de rien, parce que j'imagine assez mal des acheteurs de Series S se passer justement de cet abonnement qui est quand même franchement une bonne affaire. C'est un peu la console qui a été pensée pour, et du coup, c'est aussi une manière, tu parlais d'un peu de tout un écosystème et d'une stratégie globale qui était quand même, enfin, qui allait au-delà des seules ventes de consoles. On voit bien à quel point ils comptent finalement là-dessus et à quel point ils essayent de donner, d'apporter justement des outils aux joueurs pour essayer de faire exister le modèle finalement, parce que on sait que sur le Game Pass, ils ont quand même des chiffres qui sont largement en hausse et ils vont avoir, on parlait du renfort de ZeniMax, l'arrivée à terme de nouveaux jeux, en plus de tous ceux qui sont en train d'être développés et dont on ne connaît malheureusement pas le nom. Mais là encore, c'est une promesse d'avenir, parce que tu l'as rappelé, les prochains jeux exclusifs du côté de ZeniMax, ils sont exclusifs d'abord à la PS5, c'est Ghostwire Tokyo, c'est Deathloop. Voilà, donc le temps que les premiers jeux véritablement exclusifs à l'écosystème Microsoft arrivent, il va encore se passer du temps. Mais à côté, leur abonnement a quand même un peu pris du galon, il s'est quand même pas mal étoffé, et jusqu'à encore très récemment, on a eu l'arrivée de l'EA Play, qui n'est pas non plus une goutte d'eau dans leur abonnement. On voit qu'il y a une stratégie qui, petit à petit, essaye de faire exister le modèle et essaye de proposer un maximum de titres. Après, est-ce que l'absence de grosses exclusivités tout de suite peut les handicaper ? Je ne sais pas, parce qu'on voit que dans les chiffres, ça commence quand même sacrément à grimper. Et l'année 2020, pour le coup, confinement oblige à participer justement à cette augmentation, que ce soit le nombre d'abonnements au Game Pass ou même les souscriptions au Xbox Live pour jouer en ligne.
Bah, tu vois, en termes de console, de hardware console, pour moi, le véritable enjeu de Microsoft sur cette génération, c'est la Xbox Series S. C'est pas la Xbox Series X. Et ça, je le disais déjà il y a des mois. Et j'étais content et même un peu surpris de voir Phil Spencer dire dans des interviews que selon eux, selon leurs estimations, sur le long terme, il se vendra plus de Series S que de Series X. Parce que c'est vrai que quand tu penses au rapport qualité-quantité-prix, proposé par la Series S, c'est assez dingue. Moi, comme il a fallu que je rende que je ramène la Series X de la rédac au bureau pour que tu puisses tester différents jeux, Valhalla par exemple.
Premier lieu. Ouais.
Moi, je voulais continuer à jouer à Yakuza Like a Dragon, donc j'ai emprunté la Series S, qui est d'un point de vue philosophique à l'opposé total de ce que je veux et de ce que j'attends d'une console. Hein. Gardons ça à l'esprit. Mais si je me mets à la place du client, du consommateur lambda, qui n'est pas joueur hardcore, dont le jeu vidéo n'est pas forcément la raison d'être, mais qui aime bien, en tant que divertissement et en tant que passe-temps, le jeu vidéo.
Et qui a une bonne connexion.
Et qui a une bonne connexion.
Puisque c'est du 100% digital. Enfin, numérique.
Tu branches ta Xbox Series S sur ta télé. Et souvent, tu sais, quand tu achètes une console comme ça, ils te proposent un mois d'abonnement ou de trucs offerts avec. Enfin, tu branches ta console et d'emblée, tu as un catalogue de plusieurs centaines de jeux. Tu as juste à les télécharger, hop, c'est parti. Tu n'as pas à acheter de jeux à part, etc. Enfin, si tu as si t'es pas collectionneur, si tu n'accordes pas... Si tu consommes tes jeux vidéo comme tu consommes Netflix, par exemple, t'aimes bien regarder un truc et ensuite passer à la chose suivante sans avoir forcément besoin de remplir tes étagères derrière, etc. Enfin, l'offre, elle est dingo. C'est la variété, la quantité, etc. Et dans des conditions de jeu qui sont plus qu'honorables.
On a quand même l'impression qu'ils vont dans le sens de l'histoire aussi. On se dirige a priori plutôt vers ce type de modèle que vers l'ancien qu'on affectionne.
Clairement, les choses vont dans ce sens-là. Les éditeurs, même quand ils vendent leurs jeux de manière traditionnelle, ils font de plus en plus de choses pour t'inciter à acheter les versions des maths. Maintenant, les bonus in-game, etc., c'est surtout dans les versions des maths que tu les as.
De l'early access ?
Ouais, l'early access.
Le jeu dispo 4 jours avant, des choses comme ça se fait de plus en plus.
Les choses comme ça vont dans le sens de la dématérialisation. Et on sait que le Xbox Game Pass, c'est un pari sur le long terme. C'est pour ça que parfois des gens disent le Game Pass, ça coûte une tonne d'oseille à Microsoft, mais quand tu veux investir dans un service de ce type-là, et surtout bien t'implanter pour être là sur le long terme, bah, évidemment, ça coûte énormément d'argent au début. On sait par exemple que Netflix, c'est une boîte qui a énormément de dettes parce qu'ils ont dû investir en contenu pour être là sur le long terme, une fois encore. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas être... Surtout vu qu'on est dans une phase de modification des habitudes de consommation des joueurs et des pratiques, etc. C'est un truc qui nécessite du temps. Et là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont été les premiers à arriver avec ce genre de service. Et on voit bien, par exemple, Jim Ryan, on l'a vu du côté de chez Sony, d'un côté avec la PlayStation Plus Collection, qui est une semi-réponse timide au Game Pass, et Jim Ryan en interview qui disent « Oui, on est en train de plancher sur une réponse au Game Pass et on en parlera plus tard. » C'est comme ça que ça va aller. Et c'est là où justement Microsoft doit en ce moment s'assurer la présence de jeux, de gros jeux sur le Game Pass, parce qu'on sait que Sony va répondre à côté. Et Sony, quand ils répondront, bah déjà ils ont tout leur studio interne. Ils auront certainement un soutien assez prononcé des Japonais, parce qu'on sait que historiquement, bah, les studios japonais sont quand même plus proches de Sony que de Microsoft pour tout un tas de raisons. Donc là, c'est maintenant que les choses se jouent et c'est maintenant que Microsoft doit mettre l'accélérateur sur le Game Pass et sur les studios, etc. Parfois, peut-être un peu au détriment de son hardware classique, de son hardware console classique.
Très bien. Bon, on parlera pas de Yakuza du coup ?
Si, on parlait des jeux japonais.
Non, on va glisser sur les services juste après, évidemment.
C'est vrai que... Tu vois, je l'ai même pris devant moi. Voilà, avec les incrustations, ça merdouille un peu. Parce que c'est... avant ce Yakuza Like a Dragon, il n'y a aucun Yakuza qui est sorti Day One en boîte sur Xbox. On a eu quelques Yakuza plus anciens sur le Game Pass ces derniers mois. Mais là, c'est la première fois qu'un nouvel épisode sort Day One et sur PS4 et sur PC et sur Xbox. Et là, c'était d'autant plus marquant que la version next-gen, donc on va dire la version Smart Delivery de Yakuza Like a Dragon, était exclusive à la Xbox Series X/S. La version PS5 de Like a Dragon ne sortira qu'en mars prochain. Donc il y a eu un deal fait avec Sega pour avoir Like a Dragon. Et on a vu aussi Bandai Namco qui a vachement été mis en avant avec Bandai Namco The Game, également connu sous le nom de Scarlet Nexus. Donc oui, il y a un effort qui est fait du côté du Japon. Mais il faut, enfin, si tu veux du jeu japonais, il faut aller plus loin que ça. Faut parce qu'on sait que là encore, on compare souvent avec Sony, mais Sony, eux, ils se sont pris l'exclusivité d'un an de FF16. Donc c'est ce qui est quand même un gros truc en termes de jeu japonais.
Donc, alors que dans le même temps, tous les Final Fantasy ont fini, comme d'ailleurs tous les Yakuza, par intégrer justement le Game Pass, notamment cette année. Enfin, ça a continué aussi en 2020 à arriver petit à petit.
Il y a pas tous les Yakuza, mais il y en a trois déjà sur le Game Pass, plus Like a Dragon qui est disponible de manière plus classique. Donc faut voir. Et je pense que par exemple Final Fantasy VII Remake, il finira par sortir sur Xbox aussi, parce qu'au début, quand il avait été annoncé la toute première fois, il s'était marqué First ou un truc dans ce genre-là, First on PlayStation.
Ouais, c'est écrit sur la boîte d'ailleurs. Donc, je crois.
Mais là encore, l'intelligence de Sony vis-à-vis de ça, parce que là encore, les enjeux pour Sony ne sont pas les mêmes que pour Microsoft, c'est que c'est un silence total sur l'arrivée potentielle de d'autres versions du jeu. On sait qu'elles sont prévues, mais on ne sait pas quand elles arriveront. Donc il y a de ça d'un côté. Je pense que dans le déroulé, on parlera du lancement des consoles un peu plus tard.
Ah bah oui,
il y a eu des signes un peu plus encourageants du côté du Japon, même si ça reste quand même pour l'instant mineur d'un point de vue global.
De l'Asie aussi, de manière générale. Il y a ce petit jeu de voiture coréen, par exemple, qui avait été montré l'année dernière, qui est entré en Early Access en Europe. J'ai oublié son nom parce que franchement, il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Une espèce de Mario Kart ultra simple qui cartonne en Corée. Et je ne parle pas de Crossfire X, évidemment, qui est une des grosses cartouches pour le marché asiatique aussi. Qui est un FPS très réputé en Chine, encore une fois en Corée, et qui en plus est scénarisé par Remedy Entertainment pour la partie campagne solo. Donc c'est des choses qui, qui peuvent marcher, peut-être pas non plus cartonner, mais au moins un peu marcher, pour essayer de reprendre un peu les expressions de notre président de la République. Mais est-ce qu'on peut se retrouver avec, je me pose la question depuis un moment, une situation qu'on avait au début de la Xbox 360, à savoir des exclusivités, des vraies exclusivités, des trucs qui peuvent être vraiment importants par des personnes qui ont encore un peu de poids dans le jeu vidéo japonais. On se souvient de Blue Dragon, qui était un des premiers jeux 360.
Dead Rising.
Dead Rising aussi, absolument. Là, je pensais essentiellement à des RPG, de Lost Odyssey, qui est arrivé un peu plus tard, qui est un des meilleurs RPG qui soit jamais paru, d'ailleurs, au passage. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une situation comme ça un jour, pour la Xbox Series X ? Est-ce qu'il y aurait des studios qui pourraient craquer et entrer dans le giron exclusif de Microsoft ?
Attends, il y a deux cas de figure ouais. différents. D'un côté, tu as proposé des jeux exclusifs liés à un accord, et à côté de ça, tu as un rachat de studios.
Ouais.
Pour ce qui est des exclusivités, je pense que oui. C'est totalement possible, mais ça réside dans un seul élément, l'argent. C'est avec les fonds de Microsoft, ils peuvent se payer n'importe quelle exclusivité au fond, s'ils le désirent.
Bah, ils avaient acheté justement les jeux de Mistwalker que Plume a cité à l'époque, ils avaient largement participé à leur développement en fait pour s'assurer l'exclusivité. Le financement n'était pas total, mais ils avaient clairement mis des billes pour se réserver justement le grand nom du JRPG qui est quand même Sakaguchi, qui est maintenant parti sur mobile, donc en l'occurrence, on l'imagine mal revenir pour développer exclusivement sur Xbox.
Tout comme on imagine mal Platinum Games revenir aussi un jour parler avec Microsoft pour un nouveau jeu.
Platinum Games, c'est une question d'oseille aussi. Je pense que tout dépend de la taille du chèque. Après, financièrement, ils peuvent se le permettre. Ils peuvent acheter n'importe quoi. Mais est-ce qu'ils ont intérêt à le faire ? Est-ce que subitement les gens vont se mettre à acheter des Xbox ou à souscrire au Game Pass pour accéder à ces jeux japonais directement? Je sais pas, parce que là encore l'opacité de l'industrie du jeu vidéo fait qu'on n'a pas les chiffres. Autant, tu vois, quand un film sort au ciné, bah, on a les nombres de places vendues, on a le box-office, etc. Dans le jeu vidéo, tout est secret tout le temps. Donc, mis à part le Japon qui diffuse encore les chiffres de vente des consoles et des jeux, en Occident, nous, on ne sait pas. C'est au bon vouloir du développeur ou du constructeur de diffuser ces chiffres de vente. Donc, on ne sait pas. Est-ce que Microsoft s'y retrouve quand il finance des jeux japonais comme ça ? Après, l'autre cas de figure, c'est de racheter des studios. Mais là encore, est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il, d'après des articles démentis par Microsoft, mais bon, ça, les démentis, on sait ce que ça vaut, il y aurait eu des négociations lancées avec pas mal de structures japonaises pour d'éventuels rachats. Mais donc oui, ça peut arriver, mais là encore, il y a des questions de philosophie, des questions de manière de travailler, etc. Enfin, il y a plein de problématiques qui se soulèvent dans ce genre de situation-là. Après, vu que le sujet revient très régulièrement dans les interviews, etc., je pense que Microsoft sait que les gens attendent qu'ils achètent un studio japonais. Après, il faut acheter le bon studio. Parce que, par exemple, un Team Ninja ou un truc comme ça, ça a un peu perdu de sa superbe malgré tout, même si Team Ninja fait encore de très bons Dead or Alive.
Et Nioh, c'est bien oui, chez eux aussi.
Il y a Nioh, c'est vrai.
Ah oui, Nioh, c'est quand même autre chose.
Je pensais à d'autres. Je sais pas pourquoi j'avais Yaiba Ninja Gaiden Z en tête. C'est horrible Ninja Gaiden.
Ouais, je crois qu'ils en sont sortis.
Hein, ouais, ils en sont sortis. Non, c'est vrai. Car Team Ninja, c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais il y a des studios japonais qui ne sont plus forcément ce qu'ils étaient. Et là encore, tout est une question d'argent toujours. Est-ce qu'une fois que ces studios vont être rachetés par Microsoft, est-ce qu'ils vont garder leur manière de faire ? Est-ce qu'ils vont garder leur identité ? Après, c'est vrai, je me contredis tout seul parce que c'est vrai que Microsoft visiblement a changé son fusil d'épaule vis-à-vis de ça et accorde une certaine liberté aux structures qu'il rachète. Mais malgré tout, il y a des enjeux, il y a des délais à respecter, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup d'interrogations vis-à-vis du Japon.
Après, ils ont réussi à faire tomber quelques murs quand même parce que assez symboliquement, tu parlais des Yakuza tout à l'heure. Là, on a eu un autre cas de figure. Alors, c'était pas aussi important, mais on a Dragon Quest 11S qui est enfin arrivé justement sur Xbox One Series S, dans le Series S et X, dans le Game Pass. Ça, pareil, c'était une série qui ne sortait que sur les consoles japonaises. Et d'ailleurs, DQ11, quand il est sorti à la base, c'était sur 3DS et sur PS4 uniquement. Et là, voilà, on a l'impression qu'ils ont aussi franchi une étape, parce que le genre qui a inventé, le jeu, pardon, qui a inventé le JRPG, en tout cas, la série se retrouve enfin sur une console américaine. Ça ne veut pas dire que DQ12 va forcément sortir dessus Day One, mais là-dessus aussi, ça progresse et on sent que Square Enix, mine de rien, élargit un petit peu ses perspectives au fur et à mesure. Et
pour le coup, je me pose la question des gens qui vont jouer à Yakuza Like a Dragon sur peu importe la plateforme. Est-ce qu'ils vont se mettre dans la foulée à Dragon Quest? Parce que Kazuka fait tellement de références à Dragon Quest pendant toute l'aventure que ça pique un peu ta curiosité. Tu dis, c'est quoi ce jeu qui l'obsède depuis sa plus tendre enfance et qui a, comment dire, modelé sa manière d'être et sa vie? Donc peut-être que ça peut être un
il y aura une duo, transition, tu vois, qui pourrait se faire.
Ouais, genre tu peux jouer à l'un et ensuite à l'autre par curiosité. Mais c'est sûr
qu'avoir le 11 est un très bon épisode pour découvrir la série en plus.
En termes d'image, avoir Dragon Quest dans son Game Pass, c'est forcément une bonne chose. Mais là encore, ce sont des choses disponibles ailleurs et dans certains cas depuis un moment. Donc c'est. Mais pour les gens qui, par exemple, qui ont la série S avec le Game Pass, oui, ça c'est cool. Ça fait que rendre l'offre encore plus variée. Et varié avec un produit de qualité, donc ça c'est chouette. Mais ouais, je suis pas du tout méfiant, mais je suis curieux de voir ce que Microsoft va pouvoir proposer du côté du Japon, parce que je rapproche un peu ça à ce qu'on disait depuis le début, tu vois, des promesses, des choses dont on nous parle depuis des années et qui sont pas forcément toujours suivies dans les actes. Après, et en plus, ça m'a fait rire, c'était pas depuis cet été, les gens s'enflamment au sujet d'un rachat de Sega par Microsoft. Alors, c'est de moi ce que je sais, c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais on pourrait peut-être être surpris par des choses avec ces deux sociétés dans un avenir plus ou moins proche, non, plus ou moins éloigné, pardon.
Bon, on va passer, on va glisser tranquillement vers la partie service de Microsoft, qui elle aussi est très importante, manifestement. Avant ça, je vais faire un petit message, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites cette année aussi par rapport à un retour d'un jeu façon un contre-sang. Alors, je ne vous cache pas que un contre-sang était mon expérience préférée sur Xbox 360. J'y ai passé beaucoup de temps.
J'avais adoré aussi.
Tout le monde sait ici que j'y ai gagné beaucoup de choses et que j'étais très content d'y gagner beaucoup de choses. C'était une époque où mon cerveau marchait à 200%, donc c'était cool. Et donc, je fais un appel à Microsoft, si vous m'écoutez. Surtout, allez-y, foncez, faites-le. Vous en avez reparlé, vous avez refusé de m'en parler quand j'ai posé la question à Matt Bouty l'année dernière, quand j'étais au XO19. Il s'était juste contenté de me dire « Ah ouais, c'est cool !» Et après…
cool story, bro.
Après, voilà, exactement, c'était exactement ça. C'est « Ah ouais, c'est sympa de m'en parler !» Et après ça, lui, comme Phil Spencer, se sont revus poser la question, et cette fois, ils disaient « Ah ouais, c'est vrai, on est en train d'étudier la chose. » Donc, foncez, si vous voulez avoir du monde qui joue en ligne. Je pense que ça peut être à nouveau un beau carton, parce qu'il était vachement en avance sur son temps. C'est une expérience vraiment qui était extraordinaire et qui mériterait d'être faite aujourd'hui. Je pense que quand on voit le succès des quiz à partir d'applications sur téléphone ou autres,
et des Battle Royale.
Et des Battle Royale, qui plus est. Je comprends toujours pas pourquoi c'est pas revenu, à part peut-être pour des motivations, encore une fois, financières, publicitaires, parce qu'à l'époque, on se rappelle, il n'y avait qu'une seule pub dans un contresens, c'était la pub Diesel avec le rappeur Common qui disait « I'm a man » comme ça à la fin. Et effectivement, ça faisait un peu cheap de dire qu'il y avait… Ah ben, cette pub, elle est restée en moi, elle est encore gravée. Donc voilà, il faut remettre ça absolument. On va pouvoir passer. T'as un truc à rajouter, Romain?
Deux petites choses à ce sujet. Non, je ne pourrais pas, je n'ai pas le niveau. Comment dire, il y a quelques semaines, je ne me souviens plus exactement, mais il y a quelqu'un qui a découvert une marque déposée par Microsoft avec Quiz dans le nom. c'était nanana quiz. Enfin, il y avait un mot avec un nom de marque déposé avec quiz dedans. Donc, je pense, enfin, vu qu'ils font, ils répondent toujours à demi-mot à ce sujet-là en interview et que c'est une question qui revient fréquemment, je pense que ça va revenir. Mais j'aurais tendance à penser que ça va venir une fois que la série S sera plus répandue auprès du public. Parce que pour un jeu de quiz comme ça, il faut forcément qu'il y ait du public, il faut forcément qu'il y ait du monde. Et c'est avec ce type d'expérience, justement, surtout s'il y a des choses à gagner, que tu peux attirer le joueur plus casual ou le grand public. Donc peut-être que Microsoft attend simplement le bon moment que le parc installé de Xbox Series S soit un peu plus développé. C'est là pour le coup, j'ai pas d'infos, c'est juste une théorie, une supposition.
Et peut-être qu'un jeu qui passerait par le Game Pass aussi, c'est largement faisable. Hein.
Un truc accessible via un bonus pour les abonnés Game Pass, oui, ça pourrait coller. C'est pour ça que je parlais de la série S spécifiquement.
Ouais, bien sûr. J'ai retrouvé la pub à l'instant là. C'est un bonheur. Vraiment, elle durait exactement. Exactement 20 secondes et franchement c'est la taper 4 ou 5 fois par partie d'un contresens, c'était quelque chose, voire 3 fois de suite par moment.
Tu la sentais dans ton sommeil, non?
Un peu comme dans les pubs, un peu comme les pubs Juvamine à Noël, tu vois, ça pouvait tomber, et Mercurochrome, ça pouvait, et les marques, ah putain,
j'ai retrouvé Plumo, ouais. C'était fin novembre dernier, dernier Microsoft a déposé Impossible Quiz. Donc voilà.
Oui, Thomas.
Il y a une autre série dont on entend parler plus ou moins officiellement, mais qui excite un petit peu aussi l'appétit des joueurs et qui a été mentionnée à demi-mot aussi dans plusieurs déclarations, c'est Perfect Dark. Puisque appartient à Microsoft depuis un petit moment. Et on sait que Spencer a passé pas mal de temps à dire que oui, vous allez retrouver des licences que vous aimez bien sur Series X, il y aura des reboots, il y aura des choses comme ça. Alors on sait que Rare travaille sur Everwild, évidemment, en ce moment, mais voilà, on peut aussi espérer peut-être le retour de Joanna Dark, ce serait quand même un joli coup de la part de Microsoft, si la qualité, évidemment, est au rendez-vous, puisqu'on n'oublie pas l'épisode 0.
Après, nous avons enregistré avant les Game Awards, donc on ne va peut-être pas trop s'avancer sur ce qui pourrait avoir été montré ou risquerait d'être montré.
Non, mais comme on parlait des séries qu'on aimerait voir revenir, tu vois.
Oui, bien sûr. Oui, bah, tu sais, je serais bien content que Conker aussi soit de retour, mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas prévu.
Pour Perfect Dark, c'est la rumeur dit que ça serait The Initiative qui bosserait dessus, c'est ça, hein, de mémoire, c'est ce qui se disait. C'est le studio de Santa Monica, le nouveau studio de Santa Monica de Microsoft, qui est un peu un all-star game du développement avec énormément de grands noms de l'industrie là-bas. Donc pour ça c'est peut-être possible. Après pour Conker, c'est plus compliqué. Mais je me rappelle d'une interview de Phil Spencer de cette année où il disait que le secteur dans lequel ils pêchent un peu en termes de type de jeu proposé, c'est le jeu familial, justement, les expériences tout public, etc. Laisse-moi finir.
Parce que
Conker reprendrait sa forme initiale. La forme qu'il avait sur N64 et Game Boy.
Comment décevoir tout le monde.
Oui, c'est pas du tout ce que les gens attendent c'est pas ce que les gens attendent de Conker. Mais c'est vrai que
t'es en train de nous dire que caca, c'est pas familial, c'est
exactement,
ça.
Exactement, j'allais dire Monsieur Caca, là, ça se trouve, ta fille, elle joue et elle voit ça, elle est morte de rire et
elle va le chanter.
Surtout qu'une expression que l'école lui a apprise très vite, c'est caca boudin. Un truc qu'on n'avait jamais dit à la maison et J'ai déjà le droit, hein, t'es un caca boudin.
Oh putain, t'as dû la regarder avec vraiment des yeux furieux et tout. J'imagine que t'as dû être horrifié. T'as dû lui dire va dans ta chambre.
T'es plus frisé qu'autre chose quand tu t'y attends pas et que ta fille te sort que t'es un caca boudin. Et après tu rigoles. Mais c'est vrai que ça sortait un peu nulle part. Mais Conker, moi j'adorerais. Un jeu digne de celui qu'on a vu sur N64 aujourd'hui. Enfin, ça serait top, mais est-ce que ça se vendrait?
Ouais, platformer 3D en plus, c'est compliqué en 2020. Ouais.
Surtout qu'il y a des telles, porte-étendards dans ce domaine. Il y a des jeux tellement mythiques que maintenant, en fait, si tu te lances dans le platformer 3D, c'est vraiment que tu as des idées inédites et vraiment bien, bien ficelées, tu vois.
Crash 4 l'a très bien fait cette année.
Oui, j'allais mentionner Astrobot, tu vois. Je trouve que ceux qui arrivent à oser se lancer dignement dans le platformer 3D, c'est Toys for Bob avec Crash et Asobi avec Astro. Mais c'est compliqué. Et Nintendo a tellement verrouillé le marché avec ce style de jeu que il faut avoir les coronets et surtout le talent et les idées pour y aller, quoi. Et on voit dans le cas de Crash, autant Insane Trilogy, c'était plutôt bien vendu parce qu'il y avait toute la nostalgie derrière tout ça, etc. Apparemment, pour Crash 4, c'est un peu plus compliqué. Donc,
ils ont moins fanfaronné, en tout cas, c'est certain. Oui.
Bah voilà. Donc, faut se dire aussi que c'est pas un style de jeu facile à vendre, le platformer 3D. Malheureusement, pour les amateurs du genre dont je fais partie et dont je sais que tu fais partie aussi, Thomas.
Bon. Eh bien, on va passer donc maintenant à la partie adressée aux services, puisqu'on en a déjà pas mal discuté auparavant. On a là vraiment l'impression que tout est mis aujourd'hui par Microsoft sur le Game Pass, ce service de jeu à la demande qui a je ne sais combien de dizaines de projets, enfin de titres présents dans la ludothèque et qui évolue en plus chaque mois avec des jeux qui s'en vont, mais d'autres qui arrivent et autres. On peut déjà parler du premier gros coup qui a été fait en début d'année, puisque le Game Pass fait aussi des gros coups. Il y a eu GTA V qui a été quand même proposé pendant 3 mois, si je ne m'abuse, entièrement gratuitement, sur le Game Pass, pour les abonnés.
Gratuitement, voilà, il faut payer ton abonnement quand même.
Pour les abonnés, sachant que l'offre quand même n'est pas excessivement chère, qu'elle te permet d'accéder aux jeux, enfin tu les possèdes, c'est pas un service de streaming, c'est tu les as, tu en profites donc dans les conditions réelles. On peut dire quand même que le Game Pass c'est j'allais dire la roue de secours de Microsoft quand le reste ne va pas trop bien, mais c'est vraiment leur plus gros objectif aujourd'hui.
Ah bah ils s'en cachent pas, hein. Ils communiquent là-dessus sans arrêt. Même tu vois quand ils parlent du rachat de Bethesda, ils parlent surtout de ce rachat-là pour ce que ça va permettre de proposer sur le Game Pass par la suite. Il y a tellement de choses qui montrent que d'un point de vue business, ça se tient, hein, parce que tu vois par exemple depuis l'été dernier ou la fin de l'été, tu peux accéder au Game Pass et à une centaine de jeux sur smartphone. Donc si tu as les accessoires adaptés, tu peux faire de ton smartphone une vraie console portable, et une console portable qu'on a quand même sous le coude avec des jeux quand même d'une certaine envergure. T'as Phil Spencer, encore lui, qui en interview dit que des clés USB à la Chromecast que tu branches sur ta télé et qui te permettront de jouer au jeu Game Pass via le cloud, c'est totalement envisageable. Ils disent aussi que via le cloud, le Game Pass, etc., on pourrait potentiellement jouer aux jeux next-gen sur une Xbox One normale. Donc, l'idée de base quand Microsoft a lancé le Game Pass, c'était de permettre de jouer sur tous les écrans. Alors, on sait que pour des raisons commerciales et concurrentielles, ils ne pourront pas être sur 100% des écrans. Par exemple, on voit assez mal le Game Pass arriver sur Switch. Même si je suis certain que Microsoft adorerait proposer le Game Pass sur Switch. Mais le but, c'est quand même d'être présent partout. Et pour être présent partout et intéresser les gens, il faut du contenu. Et donc, c'est pour ça qu'ils font des offres dans tous les sens. Et d'ailleurs, là encore, Phil Spencer a récemment un peu détaillé comment ça se passe, les négociations avec les différents éditeurs, pour ajouter leurs jeux sur le Game Pass. Et visiblement, pour l'instant, c'est un peu à la carte. Parce qu'il expliquait que quand ils ont lancé le Game Pass, l'idée pour eux, c'était de rémunérer les éditeurs à l'utilisation. Genre, si ton jeu est beaucoup utilisé, tu gagnes plus d'argent. Alors là, les éditeurs ont dit, et je les comprends, « no way, Jose ». Et ils ont dû revoir leur modèle. Et donc maintenant, ils participent au financement du développement. Ou alors, ils donnent une somme donnée et tu disposes du jeu pendant certains mois. Tu vois, il y a plein d'options d'un point de vue commercial pour les éditeurs et les développeurs. vis-à-vis du Game Pass. Et à l'heure actuelle, tout le monde, même si Microsoft avoue ne pas gagner énormément d'argent avec le Game Pass pour le moment, tout le monde a l'air de s'y retrouver parce que Microsoft arrive à rendre son service de plus en plus courant et à l'ancrer dans les esprits et à le proposer sur de plus en plus de plateformes différentes. Et à côté de ça, eux, les éditeurs, gagnent de l'argent, parfois sur des jeux qui ne sont plus forcément exploités commercialement. Ça permet de regagner de l'argent avec, et même dans certains cas, de relancer ses ventes, parce que ça peut sembler étonnant, mais effectivement, la présence sur le Game Pass booste les ventes des jeux. Certains éditeurs, certains développeurs, et particulièrement des développeurs indépendants, se félicitent de l'impact du Game Pass l'utilisation de leur jeu. Ça fait disparaître mon pouce, là, les incrustations. Et deux, sur les ventes globales du jeu. Donc, pour l'instant, le Game Pass, ça a l'air d'être un bon deal pour les créateurs de jeux et pour Microsoft.
Et pour les joueurs, puisqu'ils sont.
Et clairement pour les joueurs, oui.
En septembre, le chiffre était quand même de 15 millions d'abonnés, ce qui n'est pas rien quand même. Et que, on comprend aussi qu'il y a le Game Pass qui est destiné aux consoles, mais aussi aux joueurs PC. Encore une fois, on sépare les deux. Il y a des jeux spécifiquement PC qui se retrouvent dessus. Tu le disais tout à l'heure, des jeux aussi sur Android qui sont accessibles ou pas. Bref, on comprend que les histoires d'abonnement, c'est devenu vraiment du sérieux pour Microsoft.
Oui, et puis en plus, ils diversifient leur offre, puisqu'on parle du Game Pass, mais finalement, maintenant, il y a différents niveaux de Game Pass. Il y a l'Ultimate, et il y a effectivement qui regroupe le Game Pass for PC et le classique, et qui en plus, maintenant, depuis une poignée de semaines, propose plusieurs dizaines de titres Electronic Arts en plus. Donc, tout un tas de simulations sportives, de jeux compétitifs, les Battlefield, Battlefront, etc. Donc, on voit qu'ils essayent, je trouve assez intelligemment, en plus de diversifier l'offre. Tu as la formule classique, tu as la formule Ultimate. Ça reste encore assez digeste, je trouve, à marketer et à présenter aux joueurs. Tu vois bien qu'il y a deux niveaux d'abonnement. Et Aaron Greenberg, le directeur marketing chez Microsoft, enfin de la branche Xbox, comparait justement il y a pas longtemps ce système avec Netflix, que tout le monde connaît. Donc c'est facile de faire un parallèle justement et d'expliquer aux gens comment ça marche en disant, vous voyez, on a comme les Netflix Originals des jeux qui vont rester, qui seront un petit peu pérennes et qui vont toujours être accessibles, et les autres qui seront issus de partenariats plus ou moins temporaires qui vont aller et venir, et dont vous pourrez profiter pendant un temps déterminé finalement. Et je trouve qu'en termes, pour le coup, de stratégie marketing, c'est quelque chose qui marche bien parce que ça reste une offre qui est assez simple finalement à expliquer, et on le voit bien, tu parlais des chiffres, au lancement des deux modèles de Xbox Series, on avait 70% des consoles qui étaient liées déjà à un abonnement Game Pass, donc on voit la pénétration du service sur les machines. On voit qu'il y a véritablement quelque chose qui est en train de se passer. Et là, si on a dépassé les 15 millions d'abonnés, on voit que pendant toute l'année 2020, il y a eu une hausse continue du nombre d'abonnements encore et encore. Donc, ils sont sur une très, très bonne trajectoire pour l'instant. Et on imagine forcément qu'avec l'arrivée de toutes leurs exclusivités futures, des jeux Bethesda, etc., ça va ne faire que grimper.
Et là encore, c'est... Ça a profité la Covid et la crise sanitaire, la distanciation sociale, le confinement, etc. Ça a profité à Microsoft parce que les gens ont subitement eu un besoin de divertissement renforcé, puissance 100, besoin de contenu accessible sans avoir à sortir de chez soi, avec de la variété, etc.
Et
pas trop cher. Et là, quand t'aimes un petit peu le jeu vidéo, le Game Pass, c'est quand même une offre qui est extrêmement, extrêmement séduisante. Donc forcément, la crise sanitaire mondiale a joué sur les abonnements au Game Pass.
Et vous pensez que ça restera comme ça en 2021, que ça va continuer à progresser ?
Ça va dépendre de ce que...
Je veux dire, une fois vacciné, tu penses que j'arrête mon abonnement et je vais racheter des jeux physiques ?
Ah non, pas forcément, parce que tu as quand même un côté très pratique. très pratique dont tu peux difficilement te passer après, même si tu es attaché au jeu physique, etc. Là, aimer le jeu physique et utiliser le Game Pass n'est pas l'un n'empêche pas forcément l'autre. Et il faut pas se leurrer, les consommateurs de jeux physiques, on est quand même de moins en moins nombreux. Et tu vois, il y a même trois cas de figure. Il y a d'un côté les gens qui achètent les jeux physiques. D'un côté, les gens qui achètent les jeux dématérialisés, et à côté de ça, les gens qui achètent qui s'abonnent au Game Pass. Et je pense que ceux qui achetaient déjà les jeux dématérialisés pourront passer plus facilement sur le Game Pass et ensuite acheter leurs jeux au cas par cas. Si tu n'as pas d'idée précise sur le jeu que tu as envie de, par exemple, si tu n'as pas spécifiquement envie d'avoir Cyberpunk 2077 Day One, tu seras peut-être plus attiré par un abonnement pour le Game Pass qui est quand même vachement moins cher et qui te donne un accès à une variété de jeux plus conséquente et tu te dis peut-être que ouais, Cyberpunk ça a l'air cool et j'attendrai qu'il soit sur le Game Pass, parce que on sait que sur cette génération on a souvent entendu ouais, j'attendrai les soldes ou j'attendrai une baisse de prix d'un jeu avant de me l'acheter. Et ben là peut-être que maintenant, et je dis peut-être, mais j'en vois déjà sur Twitter par exemple, il y a déjà pas mal de gens qui disent ah ouais, ce jeu là a l'air cool mais j'attendrai qu'il soit sur le Game Pass. Ça va rentrer aussi dans les pratiques. Et ça, pour le coup, c'est tout bénef pour Microsoft.
Et ça faisait même partie de leur stratégie, parce qu'ils avaient ce slogan qu'ils ont pas mal martelé, c'était trouver votre prochain jeu préféré, avec justement cette idée dont tu parlais, de se dire je sais pas trop à quoi je vais jouer, je regarde ce qu'on me propose et je me laisse comme ça piloter un petit peu au petit bonheur la chance. Et ça profite aussi effectivement à des plus petits éditeurs qui profitent d'un coup de projecteur à la sortie de certains jeux indés qui sont évidemment disponibles partout, mais dont on parle principalement parce qu'ils arrivent dans le Game Pass. Et c'est une stratégie intéressante pour le coup, je trouve, en termes de diversification, de se lancer un peu dans l'inconnu, de piffer quelque chose et de découvrir un jeu qu'on ne soupçonnait pas. C'est toujours quelque chose d'assez agréable, je trouve, et qui peut te faire, tu parlais justement de l'effet vaccin plume, te faire rester justement et te dire, en fait, j'ai découvert suffisamment de choses comme ça par pure surprise et avec cet abonnement et des one. Donc, je vais rester parce que j'imagine que je vais continuer à expérimenter ce genre de découverte.
Écoutez, ensuite, on peut aussi parler de... Tu as parlé évidemment tout à l'heure...
Je t'interromps deux secondes.
Tu fais tout le temps.
Après, parce que j'étais en train de... J'avais une idée qui m'était sortie de la tête et qui est revenue. Après, okay. faut faire attention aussi la quantité importante, massive de jeux à disposition, ça peut faire peur aussi, curieusement, parce que parfois, tous les gens qui ont utilisé Netflix au moins une fois, ou des services équivalents, se sont déjà retrouvés dans l'incapacité de choisir. Genre, tu te retrouves face à cette quantité tellement importante de contenu parmi lesquels faire une sélection. En fin de compte, tu ne lances rien parce que tu n'as pas réussi à te décider. Bon, après, c'est un cas de figure qui n'est pas forcément super... super présent ou qui se reproduit trop souvent, mais ça arrive parfois aussi. Tu as envie de jouer un truc, mais comme tu sais pas à quoi jouer, finalement, t'éteins et tu vas faire autre chose.
Problème de riche.
Ouais. Exactement. On parlait tout à l'heure justement de ce qui se passait sur smartphone pour le Game Pass. Le Project X Cloud, mine de rien, encore une fois, on peut parler d'une victoire de Microsoft parce que dans le domaine, ils sont parfaitement à la pointe de ce côté-là. Les retours de xCloud, maintenant, je ne sais pas si on continue à l'appeler Project xCloud ou xCloud, mais en tout cas, les retours sont toujours très bons. Il n'y a pas de difficultés majeures en termes techniques. Quand tu vois d'autres, je vais prendre un exemple tout bête, mais Stadia, quand ça s'est lancé, c'était vraiment une catastrophe. Beaucoup ont reproché à Google de s'être précipité. Là, Luna d'Amazon est encore en bêta et je sens pas qu'il y ait une grosse hype non plus autour, mais toujours est-il que de ce côté-là, encore une fois, les infrastructures de Microsoft et leur stratégie ont l'air d'être parfaitement payantes.
C'est l'avantage d'être c'est un double avantage, l'avantage d'être le premier et l'avantage d'avoir des fonds sans fin et une infrastructure sur laquelle te reposer et qui est massive. À côté, Google et Amazon sont pas les petites PME qui se lancent dans le cloud gaming, mais c'est Microsoft.
Disons qu'ils sont tellement habitués au succès qu'ils s'imaginent comme beaucoup de gens dans le monde qui voient des succès quelque part, qui voient une start-up réussir un truc du premier coup, qui doivent s'imaginer que ah, bah, il suffit de se lancer et ça va fonctionner.
Après, à Google s'est déjà planté. Hein. On pense à Google Plus,
ah là là, oui.
Par exemple, qui était sa réponse à Facebook, aux réseaux sociaux d'une manière générale, et ça s'est ramassé complètement. Le truc était désert quasiment immédiatement. Et là, Stadia est pas sorti d'affaire non plus. Hein. Pour l'instant, c'est pas folichon, loin de là. Donc, ils ont les moyens de s'accrocher. Mais pendant combien de temps ils vont s'accrocher avant de se dire « bon, bah, on a raté notre coup ». Surtout que Stadia, en fait, ce qui joue en plus en leur défaveur, c'est qu'entre les promesses initiales et le service tel qu'il existe actuellement, ça n'a rien à voir. Parce qu'on parlait il y avait des options multijoueurs assez incroyables qui avaient été annoncées lors de la première conférence, options dont on n'a strictement jamais entendu parler depuis. Donc il y a de ça aussi. Mais Microsoft, lui, avait une vision plus basique finalement du jeu via le cloud, mais une vision qui fonctionne et qu'il a eu la bonne idée et les capacités de lancer en premier. Donc ça, ça joue en sa faveur, parce que dans ce genre de domaine du service, c'est souvent celui qui se lance bien en premier qui réussit à tirer son épingle du jeu sur le long terme. Donc pour l'instant, oui, le X Cloud, ça se passe plutôt bien et ça va faire que se développer, parce que là encore, on en parlait tout à l'heure du système de Chromecast-like Xbox que tu brancherais juste sur une télé, qui en fait ne ferait que tu n'aies plus besoin de console, tout simplement, juste ce truc-là pour jouer via le cloud. L'offre sur smartphone va se développer, parce qu'on sait aussi qu'à terme Microsoft veut aussi être sur iOS, hein. Ils ont un deal avec ils sont sur Android en ce moment, ils ont un deal avec Samsung, mais leur but c'est de d'étendre leur offre à encore plus de plateformes que ça, et même proposer le jeu via le cloud sur leurs anciennes consoles. Je parle plus précisément de la Xbox One. Donc les possibilités de développement de Microsoft à ce niveau-là sont massives. Et en plus, leurs infrastructures vont gagner en solidité et tout au fil du temps. Donc là, ils sont déjà présents avec un truc qui fonctionne plutôt bien. Et donc, ça va aller qu'en grandissant. Donc ouais, c'est, y a de quoi être confiant vis-à-vis de ça du côté de chez Microsoft.
Ouais, vas-y Thomas, vas-y.
Non, vas-y.
Non, mais c'était juste pour dire qu'on avait commencé de façon un peu sombre, on va dire, ou au moins pas très enthousiaste par rapport à l'année 2020 de Microsoft, alors que finalement, si on suit leur stratégie et la façon dont ils veulent essayer d'étendre leur emprise sur le jeu vidéo, bah, ils s'en sortent finalement plutôt très très bien. Voilà, c'était ma remarque, grâce à ces services et ces infrastructures.
Bah, ils deviennent un peu incontournables en fait avec le temps, puisque cette année encore, le partenariat avec Sony pour justement l'hébergement de serveurs a été renforcé. On sait qu'ils en ont discuté aussi avec Nintendo. Donc, on voit que même si en termes de vente de jeux purs, qui nous intéresse nous, mais ça reste qu'une petite composante finalement maintenant du marché du jeu vidéo, ça devient, quoi qu'il arrive, Microsoft un acteur assez incontournable pour l'écosystème finalement en général, la gestion du jeu, notamment en ligne, le streaming, ce genre de choses. Et bah, on se rend compte que finalement, même si c'est pas encore, et ça ne sera peut-être pas les leaders du marché sur cette génération, ils ont placé tellement de billes un petit peu partout qu'on voit à peu près comment l'équilibre en fait se dessine chez eux sur le plan financier. Donc le jeu vidéo, c'est plein de manières finalement de gagner de l'argent pour Microsoft.
Ouais, c'est pour ça que Xbox maintenant, c'est plus une console. Xbox, c'est le jeu vidéo pour Microsoft dans son ensemble. Et c'est là où le fait que Microsoft aide Sony sur le développement de ses infrastructures, etc., ça me fait rire, parce que je me dis que certains fanboys vont saigner du nez, parce qu'ils vont devoir réaliser que lorsqu'ils vont jouer via le cloud, par exemple, ou via les services de PlayStation, il y a de grandes chances que ça fasse gagner de l'argent à Microsoft, parce que ça tournera sur les plateformes de Microsoft.
Il faut être vraiment obtus pour penser à ça et s'énerver sur un point de détail pareil. Hein.
Les fanboys, plus rien ne m'étonne avec eux. Qu'est-ce que tu dis, Plumon ?
Moi, je boycotte. Je peux pas. C'est pas possible.
Oui, mais on sait tous que tu n'es qu'un con, de toute façon.
Les Ori sur Switch, hors de question. Alors là, vraiment, mais jamais de la vie. Oh là là.
J'ai déjà vu quelqu'un refuser de jouer à une démo parce que la démo était proposée sur Xbox 360. il a vu la manette, il a dit ah non, moi je touche pas ça.
Je pense que c'est.
L'idiotie va quand même à un niveau.
Mais non, mais c'est faire preuve d'une étroitesse d'esprit qui est fondante de nullité, quoi.
Ah bah, c'est un fanboy. Hein. Les voix.
Mais heureusement, je pense que ça. Pénétrable. Mais heureusement, ça n'entamera pas le modèle économique de Microsoft pour le coup, parce que voilà, ils sont déjà un petit peu partout.
Quoi. Oui. Et bah ça ne va pas diminuer.
Nous, on va être sur la partie lancement maintenant, parce que cette année, évidemment, c'était une année particulière, parce que bon, bah, on est tous restés chez nous, mais c'était surtout une année de lancement de nouvelles consoles. Et on en parlera sûrement la semaine prochaine quand on fera le bilan de PlayStation, mais il y a surtout eu un lancement de consoles du côté de chez Microsoft, d'abord, qui est sorti en premier partout dans le monde le 10 novembre dernier, la Xbox Series X, accompagnée de la Xbox Series S dont nous avons parlé aussi un petit peu avant, qui a mis du temps à être annoncé alors que ça faisait quand même un an et demi, voire plus, que c'était un serpent de mer, ce fameux modèle Lockhart de la Xbox Series X. Eh bien, voilà, elles sont toutes les deux arrivées. Là, on peut dire que bah, c'est un lancement en demi-teinte, peut-être, par rapport à la bibliothèque de jeux originaux proposés dessus, pour commencer.
Ah. Alors c'est un lancement demi-teinte, la partie sombre, la partie sombre, oui, clairement pour le catalogue de jeux, mais la partie claire pour le succès commercial. Bon, après on n'a pas les chiffres, mais les Xbox Series S, X et plus ou moins aussi les Series S sont sold out partout. Donc ça veut dire qu'il y a de la demande, il y a de la demande malgré tout. Après là on ne connaît pas les volumes de vente, mais un truc que j'ai trouvé bien, et là c'est bien vu de la part de, bien géré de la part de Microsoft, c'est quand même on a reçu la console extrêmement en avance. Ils ont compensé l'absence des salons et des différents événements auxquels ils avaient pu penser si l'année avait été normale, pour nous permettre de prendre la machine en main bien avant sa sortie et de la tester sans rusher, de manière confortable, avec différentes phases de test, d'abord pour la rétrocompatibilité, d'abord pour ceci, d'abord pour cela, jusqu'à la sortie. Donc ça, c'était très bien. Après, c'est vrai que je trouve que d'un point de vue marketing, la console est vachement moins présente que la PS5 dans les médias. J'ai vu un truc passer là-dessus hier sur le budget publicitaire à la télé de PlayStation qui a littéralement explosé pour la sortie de la PS5. C'est vrai que des pubs PS5, bah, t'en as partout, alors que je me base sur la France, mais les publicités Xbox, t'en as quand même vachement moins. Mais ouais, par contre, le catalogue de jeux, le catalogue de jeux est pas super ouf, enfin de jeux exclusifs est pas ouf pour l'instant. Mais après, mais ça, pour le coup, faut vraiment avoir utilisé la console pour s'en rendre compte. Le gain en confort de jeu, il est tellement plaisant. Enfin, franchement, si t'es joueur Xbox de base et que t'as l'intention de passer à la next-gen ou que t'hésites un peu, enfin, franchement, une fois que t'as joué avec la Series X, t'as plus envie de jouer avec la One. C'est clair et net, que ce soit en termes de rapidité de lancement, de temps de chargement et même de gains visuels, parce que les gains visuels vont jusqu'à certains jeux de la première Xbox, tu vois. Donc, t'as le HDR automatique. Quand ta télé est équipée, t'as le variable refresh rate qui permet de compenser du screen tearing ou des baisses de frame rate, etc. T'as un confort d'utilisation qui est conséquent. Et franchement, la Xbox Series X, c'est vraiment une très belle machine en termes de qualité d'expérience et de qualité de l'infrastructure et du fonctionnement. C'est vraiment une très belle machine. Alors après, il y a eu des comparatifs sur les jeux cross-plateforme, enfin multiplateforme, qui ont été faits, qui ne sont pas forcément en faveur de la Xbox Series X comparée à la PS5 pour l'instant. Mais ça, ce sont des choses qui, avec l'optimisation et avec le temps, sont, d'après Microsoft, vouées à disparaître et même s'inverser.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça fait partie un petit peu des mini bad buzz concernant la console, parce qu'on n'arrête pas de nous dire c'est la console la plus puissante jamais créée du côté de chez Microsoft. Et quand tu compares des Assassin's Creed Valhalla et d'autres jeux l'un à l'autre avec les versions sur PS5, tu vois qu'il y a un petit gap. Et malheureusement, encore une fois, ça a joué contre eux.
Ah, ça joue clairement contre eux. Après, Phil Spencer explique ça en disant que, bah, par exemple, ils ont retardé la mise en production de la Xbox Series X parce qu'ils voulaient s'assurer d'une compatibilité totale de la machine avec le système AMD RDNA 2. Parce qu'on sait que la PS5 est compatible aussi avec le RDNA 2, mais là, ils parlent vraiment d'une compatibilité totale, et cette compatibilité totale pourrait, d'après Microsoft, jouer en la faveur des jeux sortant sur sa machine plus tard. Il dit que comme en plus la machine a été mise en production tard, certains développeurs ont eux aussi été servis assez tardivement en kit de développement et en machine, etc. Et donc ça jouerait, il y a de l'optimisation qui n'a pas pu être faite sur Xbox Series X pardon, pour l'instant, et que ça devrait changer. Mais là encore, c'est de la promesse. Mais moi qui ai eu entre les mains la Xbox Series X entre les mains avant de pouvoir jouer à la PS5, moi mon seul point de comparaison c'était avec la génération précédente, et c'était le jour et la nuit. Thomas qui a pu prendre un peu la Series X en main aussi, enfin le confort il est indéniable.
Est-ce que c'est pas, et là c'est Thomas qui va peut-être me répondre, le fait que ce soit la machine best of Xbox, c'est pas la stratégie à adopter, et sûrement qui a été adoptée d'ailleurs par Microsoft pour ce lancement.
Dans le sens où tu veux dire, c'est les jeux de l'ancienne génération, de toutes les générations précédentes, voilà. Maximisés.
Enfin, pas tous, puisqu'il y en a certains qui sont toujours pas compatibles, malheureusement.
Après, moi, j'ai pas essayé de jeux rétro, contrairement à Romain qui a pu passer beaucoup de temps dessus. Moi, j'ai simplement, entre guillemets, découvert les jeux qui sortaient aussi sur Series X. Et il y a un des points dans les améliorations techniques que tu n'as pas forcément mentionné, mais la fluidité justement qui a été apportée aux jeux qui sortent, ça fait partie justement du confort incroyable qui arrive avec cette machine. Et pour moi, elle a profité aussi du fait que ça a été la première. Et mine de rien, il n'y a qu'une première prise de contact en fait avec une nouvelle génération de machines, et en l'occurrence nous c'est la Series X qui nous l'a apporté finalement. Donc cet effet waouh, cette fluidité incroyable, cette disparition des temps de chargement, évidemment elle existe aussi chez la concurrence maintenant. Mine de rien, c'est quand même elle qui d'abord m'a foutu ma première grosse claque avec effectivement Assassin's Creed Valhalla. Et il y a eu beaucoup de débats, on en a parlé à peu près toute l'année, il y avait des déclarations qui étaient examinées à la loupe, etc., sur le fait de pouvoir proposer en même temps et du 4K et du 60 FPS constant, l'arrivée de la fluidité en tout cas, même si les deux ne sont pas forcément présents dans tous les jeux qui sont sortis, et notamment les derniers jeux Ubisoft cross-générationnels, le fait de le proposer, et surtout cette fluidité incroyable à laquelle on s'habitue extrêmement vite, ça fait partie des apports indéniables de cette nouvelle génération. Je n'irai pas jusqu'à reprendre les termes, je ne sais plus si c'était Spencer ou un autre responsable qui disait, vous allez voir, ça sera équivalent au passage de génération entre les consoles 2D et les consoles 3D. Il n'empêche qu'on a pu constater immédiatement, quand on a pu l'essayer, les véritables apports que ces multiples cœurs permettaient. Et effectivement, c'est quand même très compliqué de s'asseoir dessus maintenant qu'on l'a essayé, d'autant plus que c'est une console avec des finitions quand même assez, assez exceptionnelles. On l'a dit déjà ici plusieurs fois.
Tu vois, moi, la comparaison que je ferais, c'est pas trop avec le passage de la 2D à la 3D, mais avec le passage de la SD à la HD. Parce que quand il y a eu le passage de la SD à la HD, je me souviens, il y a plein de gens qui disaient « mais on voit pas la différence, ça sert à rien, etc. » Mais ça, les gens qui disaient ça, ce sont les gens qui ne l'avaient pas essayé. Parce que moi, je me souviens bien, quand j'ai essayé la Xbox 360 pour la première fois en HD, et quand tu te remets sur ton petit combi télémagnétoscope juste après...
480.
Ouais, là, tu te dis « ah oui !» Ah oui, d'accord. En fait, non, maintenant, j'ai envie de jouer en HD.
Et bah, là,
c'est un peu pareil. Il y a plein de gens qui disaient, oui, moi, la différence entre 30 et 60 FPS, je la vois pas. Je la vois pas, je la ressens pas. C'est pareil. Enfin, une fois que tu as essayé un jeu en 60 FPS et que tu y rejoues en 30 FPS, tu as l'impression que le jeu est bug, en fait.
Il rame.
T'as l'impression qu'il rame, etc. Et là, dans le cas de, par exemple, Yakuza Like a Dragon, le Dragon Engine que Sega a sorti à partir de Yakuza 6 sur PS4 et PS4 Pro, c'était jusqu'à présent du 30 FPS. Là, j'ai pu découvrir ce moteur en 60 FPS sur Xbox Series S. X, pardon. Franchement, t'as plus envie de jouer et t'as plus envie de jouer en 30 FPS. Après, quand on te permet d'avoir, même si c'est pas de la full 4K, que c'est de la 4K dynamique ou du 1440p, enfin, t'es plus prêt à faire une concession sur la résolution que sur le framerate. Le framerate, ça change vraiment tout en termes de confort de jeu. C'est tellement plus agréable, ça n'a rien à voir. Et à côté de ça, pour ce qui est de la rétrocompatibilité, c'est vraiment plus agréable pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui ait une grosse collection de jeux accessible tout le temps, pouvoir mettre des jeux Xbox 360 et les lancer. Par exemple, je me rappelle de GTA 4, les temps de chargement des GTA, ou enfin des jeux Rockstar d'une manière générale, en début de partie, ils sont toujours conséquents. Et ben là, c'est réduit, mais c'est tellement réduit. On sait que des jeux comme GTA 4, par exemple, sont des longs sellers qui vont continuer de se vendre pendant des années et des années après. Là, pouvoir en profiter de cette manière-là. Le seul bémol, c'est que tous les jeux Xbox One, sauf les jeux Kinect, sont compatibles Series X. Il y a plusieurs centaines de jeux 360 qui sont compatibles aussi, et une poignée de jeux de la première Xbox. Moi, je voudrais juste qu'ils continuent de rajouter des jeux compatibles, parce que c'est vrai qu'y jouer de cette manière-là, c'est vraiment... En fait, ça pourrait... si tu les mets sur le Xbox Store en dématérialisé ou que tu les proposes sur le Game Pass, ça pourrait limite relancer de l'intérêt pour ces vieux jeux, parce qu'ils sont vraiment... sublimé d'une certaine manière sur Xbox Series X. Alors moi, j'avais essayé de creuser, parce que il y a, je sais plus, un peu plus d'un an ou deux ans, je sais plus, Microsoft avait dit bon, on en a fini avec la rétrocompatibilité, voilà, on vous balance une dernière série de jeux, maintenant c'est de l'optimisation, on rajoutera pas de jeux. Et j'ai essayé de savoir, et on m'a fait comprendre qu'ils avaient pas de déclaration officielle à faire à ce sujet, mais qu'ils n'excluaient pas totalement l'idée de rajouter d'autres jeux par la suite. Donc moi, je croise les doigts, j'espère, parce que j'en ai quand même pas mal encore dans ma collection qui ne sont pas rétrocompatibles. Mais pouvoir passer de... pour pouvoir jouer à des jeux de 4 générations différentes dans de très bonnes conditions sur une seule machine, c'est du jamais vu. Et parce que on parle par exemple de la rétrocompatibilité de la PS5 avec les jeux PS4, elle n'est pas du tout faite de la même manière que la rétrocompatibilité de la Series X avec les jeux Xbox One, par exemple. Déjà, on le voit rien qu'avec le transfert de sauvegarde. Certains jeux le permettent, d'autres jeux ne le permettent pas. Et si Sony dit que tous les jeux, à part une toute petite poignée de jeux PS4, seront rétrocompatibles, certains, malgré tout, oui, sont officiellement rétrocompatibles, mais ils ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils fonctionnaient sur une PS4 normale. Donc, il y a des différences à bien remarquer à ce niveau-là. Et le travail qu'a fait Microsoft en termes de compatibilité des jeux, il est assez magistral.
Rien à ajouter. Je pense que là, tout est absolument dit de ce côté-là. Et je pense qu'on peut à peu près... dire qu'on a tout dit d'ailleurs pour ce podcast de manière générale. On a bien fait le tour de cette année. Il y a toujours beaucoup de choses à dire, hein, de toute manière, et on pourrait y passer environ 8 heures encore, mais on ne le fera pas parce que il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps, qui ont envie de continuer à jouer aussi en même temps, et dans mon cas de regarder à nouveau en boucle la pub Only the Brave qui passait dans un contre-sens. Bref, voilà, je cherche encore le titre qu'on va donner à ce podcast pour tout vous avouer. On en discutera juste après. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on pouvait résumer l'année 2020 de Microsoft, de Xbox en particulier. On reviendra évidemment la semaine prochaine pour conclure la partie bilan 2020 avec Sony et PlayStation. Il y aura encore une fois beaucoup de choses à dire. L'avantage avec la semaine prochaine, c'est qu'on aura en plus les Game Awards qui seront passés. Donc peut-être qu'on aura d'autres choses qu'on n'aurait pas pu mettre dans ce podcast-là, qui arriveront pour celui de PlayStation. Merci Romain, merci Thomas, merci Poufi à la Sono, comme d'habitude. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, surtout, portez-vous bien, hein, et portez un masque aussi, et mettez du gel, et faisez pas les cons avant la période de Noël. Voilà, on vous embrasse, et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous.
Ciao.
Ciao.
Les banzaïs, comme disait Moustique.